France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une heure en direct entre actualité et histoire longue d'une économie telle que nous la vivons aujourd'hui, avec au programme aujourd'hui une question d'actualité pour commencer, le CPE, le fameux contrat première embauche à 20 ans, quasiment jour pour jour aujourd'hui, ce qui n'était au départ qu'un amendement dans un projet de loi dit pour l'égalité des chances, adopté dans la nuit du 8 au 9 février 2006, a mis le feu aux poudres et a jeté une lumière assez crue sur les défaillances des politiques de l'emploi à destination des jeunes. Alors depuis, qu'est-ce qui a changé? Quelles leçons ont été retenues et pour quels résultats? Nous en parlerons avec la sociologue Florence Iadaden et l'économiste Jérôme Gauthier. Dans une seconde partie d'émission, nous partirons aux origines d'une éventuelle doctrine commerciale française, alors que les grandes puissances s'affrontent à grands coups de droits de douane, signent des accords, parfois prévus de longue date, parfois d'un genre assez nouveau face aux circonstances. La France a-t-elle une doctrine, une façon de négocier, de concevoir la diplomatie commerciale qui lui est propre? Relations extérieures et commerce, c'est un mélange des mondes où se croisent diplomates, grands et petits patrons, fonctionnaires de tout poil et dans lequel nous allons plonger dans une série en 4 épisodes qui commence donc ce lundi avec cette question. Libre-échange ou protectionnisme, la France a-t-elle choisi son camp il y a longtemps? Car tout commence au milieu du 19e siècle, le chercheur Léo Charles nous y emmènera. Et enfin, à 14h55, nous retrouverons l'économiste Alexandra Roulet pour son fil de l'écho qui nous expliquera comment les compétences produisent de la richesse. Mais avant cela, une parenthèse pour revenir sur l'actualité de la semaine. Vous vous en souvenez, la semaine dernière, tous les regards étaient braqués sur l'Inde, avec laquelle l'Union européenne venait de signer l'accord de tous les accords. Je vous en parlais ici même à ce micro. Depuis, la semaine a été riche en initiatives. Jeudi, on apprenait que l'Union européenne était proche de signer un accord commercial avec l'Australie. La question des quotas de bœuf détaxés reste encore un sujet de tension. Réponse jeudi prochain, où est prévue une réunion entre les commissaires européens du commerce et de l'agriculture et le ministre australien du commerce. Jeudi dernier, le 6 février toujours, c'est un programme de coopération de plusieurs millions d'euros qui a été annoncé entre l'Union européenne et la Bolivie. La délégation européenne a annoncé une nouvelle phase dans les relations bilatérales entre les deux pays. Donc, mercredi dernier, des responsables européens se sont rendus aux États-Unis afin de trouver un accord avec les États-Unis, donc sur les terres rares. Une cinquantaine de pays se sont ainsi réunis dans cette optique à Washington. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a alors beaucoup insisté sur le multilatéralisme en action. C'est un partenariat stratégique entre les États-Unis, l'Union européenne et le Japon, qui a d'ailleurs été annoncé. Alors cela a beaucoup étonné, hein, le but de cet esprit de coopération inattendu étant évidemment de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine, mais c'était un multilatéralisme affiché qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps. Le même jour, le Parlement européen a repris l'examen de l'accord commercial avec les États-Unis, qui avait été suspendu il y a 2 semaines face aux menaces de Trump vis-à-vis du Groenland. Les États-Unis n'ont donc pas chômé non plus cette semaine. Eux aussi ont signé un accord commercial avec l'Inde. L'annonce est tombé lundi dernier et les détails samedi. En échange d'une réduction des droits de douane américains à 18%, l'Inde va éliminer ou réduire ses taxes sur tous les biens industriels et une large gamme de produits alimentaires ou agricoles américains. Jeudi 5 février, c'était avec l'Argentine qu'un accord de commerce et d'investissement a été signé. Le but, selon le communiqué officiel, réduire les barrières tarifaires et non tarifaires, faciliter le commerce des biens et services, moderniser les procédures douanières ainsi que les infrastructures et les technologies. Et l'on voit qu'en de multiples endroits et à de multiples occasions, le commerce international se reconfigure. Malgré tout, serait-on tenté de dire, il n'en reste pas moins que les institutions qui ont longtemps servi de socle à ces échanges demeurent dans une situation pour le moins délicate. Le 4 février, mercredi dernier donc, l'ambassadeur norvégien Peter Holberg a déclaré que parvenir à réformer l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, était désormais une question de vie ou de mort. Peter Holberg, qui est donc le facilitateur des discussions sur la réforme de l'institution, une réforme on le sait, dont la nécessité est actée depuis plusieurs années, mais dont l'urgence s'est accentuée, bien sûr, depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump. Les discussions auront lieu du 26 au 29 mars au Cameroun. Une configuration nouvelle qui interroge donc sur la place de la France dans ses remous commerciaux et diplomatiques. Nous en parlerons, je vous le disais, en seconde partie d'émission. Mais tout de suite, place à notre question du jour. Et on remonte 20 ans en arrière, jour pour jour, dans la nuit du 8 au 9 février 2006, était adopté à 2h35 du matin le contrat première embauche après 20 heures de discussion.
Villepin décroche son contrat première embauche. Le CPE voté à la vitesse éclair cette nuit dans une assemblée quasi déserte. Un député sur 8 seulement dans l'hémicycle. Quelle sera l'ampleur de la mobilisation contre le CPE ? C'est toute la question ce matin. Les syndicats ont battu le rappel des troupes et ils comptent sur les étudiants et lycéens. Sur Internet, ces derniers jours, les blogs et les forums ont explosé. Et de façon plus traditionnelle, devant les facs, les opposants au contrat ont fait de la retape.
J'ai voulu agir vite.
Dominique de Villepin annonce le retrait du CPE. Le 10 avril 2006.
Parce que la situation dramatique et le désespoir de beaucoup de jeunes l'exigent. Cela n'a pas été compris par tous. Je le regrette.
Il y a combien de jeunes au chômage ? 20%. Il y en avait combien il y a 20 ans ? 20%. Il y en avait combien il y a 30 ans ? 20%.
Patrick Martin, président du MEDEF, le 5 février 2026 sur France 2.
Il y en a combien en Allemagne ? 5%. L'opinion publique, la collectivité nationale, en tout cas le patronat, ne peuvent pas rester indifférents à cette situation. Et on a donc émis cette idée, pour la débattre avec les syndicats, que pour des jeunes qui sont éloignés de l'emploi, 1 400 000 jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en études, dont personne ne s'occupe. Personne.
On ne lutte pas contre la précarité par une autre précarité.
Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, le 2 février 2026 sur France 2.
C'est quand même extrêmement hypocrite de dire qu'on va faire reculer les contrats précaires en rendant le CDI encore plus précaire que les contrats précaires. Parce que c'est ça la proposition du patronat, c'est que le CDI soit encore pire qu'un CDD, puisqu'il pourrait être interrompu sans motif pendant 3 ans et sans même une prime de précarité, ce qui est le cas pour le CDD.
Le 9 février 2006, les choses ne faisaient que commencer. La contestation dans les mois qui suivirent a marqué les esprits de toute une génération, sans doute aussi parce qu'elle s'est soldée par une victoire pour les contestataires. Le 10 avril 2006, Dominique de Villepin annonçait renoncer au dispositif. Mais l'idée est-elle morte ? Pour autant, lorsque le MEDEF met sur la table un CDI jeune avec une période d'essai de 3 ans, le spectre du CPE hante le débat public et la question de fond demeure. Pourquoi l'insertion des jeunes sur le marché du travail est-elle aussi difficile et quel bilan tirer des 20 dernières années de politique à destination des jeunes ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Florence Iadaden, sociologue de la jeunesse et du travail, maîtresse de conférence à l'université Picardie Jules Verne. Bonjour et bienvenue à vous.
Bonjour.
Et vous êtes également l'autrice d'un ouvrage, Promesse d'embauche, comment l'État met l'espoir des jeunes au travail, paru aux éditions La Dispute. Également avec nous, Jérôme Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteur d'un ouvrage intitulé Le salaire minimum et l'emploi, paru aux presses de Sciences Po. Alors Jérôme Gauthier, il faut avant tout s'entendre sur le constat. Si le MEDEF a formulé cette proposition, c'est pour s'attaquer, et je cite là ces mots, au scandale du 1,4 million de jeunes qui ne trouvent rien aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Alors d'où vient au juste le problème ? Est-ce qu'il s'agit d'un chiffre en hausse, d'un chiffre qui stagne, qu'il s'agisse d'un chiffre bien plus élevé que celui de la moyenne nationale, tous âges confondus ? Où se situe au juste ce fameux scandale ?
Alors si on reprend les chiffres en fait, si on regarde le taux de chômage aujourd'hui des jeunes, il est un peu au-dessus de 18%. Bon. Il faut rappeler qu'il a fortement baissé. On a atteint un maximum autour de 2013-2014, où il dépassait les 26%, on était à 26,5%, et il a baissé jusqu'à pratiquement 16% il y a 2 ans, et là il remonte un peu parce que l'économie a ralenti aussi. Hein,
voilà. Donc plutôt du conjoncturel.
Il y a une composante conjoncturelle, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'est jamais descendu en dessous de 16% depuis plus de 25 ans maintenant. Mais si on compare, on fait une comparaison européenne, puisque M. Martin faisait une comparaison européenne, effectivement, si on prend l'Allemagne, on prend le meilleur élève, pratiquement, à part le Japon.
Derrière les moyennes, il y a toujours...
Et l'Allemagne avait un taux de chômage de 6,8% en décembre des jeunes, en 2025. Bon. Mais on a beaucoup d'autres pays qui avaient des taux de chômage plus élevés que celui de la France, et pas seulement des pays d'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie, l'Espagne à 23%, l'Italie à 20%, mais aussi la Suède, par exemple, 24%. Bon. Mais ce qu'il faut regarder, en fait, c'est si on a beaucoup de jeunes au chômage, c'est aussi parce qu'on a beaucoup de chômeurs, tout simplement. Et qu'il faut regarder en termes relatifs et rapporter le taux de chômage des jeunes au taux de chômage de l'ensemble de la population active. Et là, finalement, la France est très dans la moyenne, en fait. Mmh. C'est-à-dire qu'avec... Le taux de chômage des jeunes est 2,3 fois plus élevé que celui de l'ensemble de la population active. Et elle est exactement au même niveau que des pays aussi différents que l'Espagne, que les Pays-Bas, que les États-Unis même. Voilà.
C'est... C'est intéressant, Jérôme Gauthier, parce que ça implique de se pencher sur la question d'une spécificité de ce public jeune. Et là, Florence Yadaden, je m'adresse à la sociologue que vous êtes. On a effectivement parlé des chiffres, on a parlé de cette population jeune. Alors moi, en préparant cette émission, j'ai vu mille et une statistiques. À chaque fois, la tranche d'âge se décalait un peu, soit vers le bas, soit vers le haut. Et je me suis demandé comment on pouvait arriver à tirer des conclusions ou même faire des comparaisons, alors même que cette tranche-là, cette assiette-là bougeait sans cesse. De qui parle-t-on lorsque l'on parle des jeunes? Est-ce qu'il y a effectivement, comme le suggérait Jérôme Gauthier, une spécificité effectivement?
Et là, je parlais des moins de 25 ans.
Et là, on parlait des moins de 25 ans.
Oui.
Florence Yadaden, sur cette question-là, de la définition de ce public jeune.
Alors, je serais bien en peine de répondre à cette question, puisque visiblement, les politiques publiques ne sont pas très claires non plus sur cette question. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à l'attraper de cette façon. C'est-à-dire, ma réponse, c'est les jeunes sont ceux qui sont ciblés par les politiques publiques de la jeunesse.
Donc, c'est un peu le serpent qui se mord la queue.
C'est un peu le serpent qui se mord la queue. En tout cas, on peut se dire que la population dont on est en train de parler, c'est la population qui rentre pour la première fois sur le marché du travail. Voilà, je pense que ça, c'est un indicateur de qui on parle. C'est ces jeunes qui donc sortent de formation potentiellement, soit de l'école, soit d'une formation autre, ou d'une inactivité, mais qui cherchent un premier emploi. Et juste, je me permets de rebondir sur cette question du taux de chômage des jeunes. Mmh. On manquerait à ne pas préciser qu'il s'agit d'un taux de chômage des jeunes actifs.
C'est ce que j'allais vous demander.
Une grande partie des jeunes ne sont pas actifs, puisque de fait, il faut aussi retirer de cette population jeune actifs ceux qui sont en études, ceux qui sont à l'école, ceux qui sont en alternance, ceux qui sont en service civique, ceux qui sont dans les multiples dispositifs lesquels on reviendra.
Oui, je crois qu'en 2020, on a à peu près 75% des femmes et 66% des hommes de 18 à 20 ans qui étudient. Donc ça enlève déjà effectivement
une très grosse partie. Et donc ça veut aussi dire que ceux qui sont sur le marché du travail sont potentiellement les moins diplômés, puisque ceux qui sont en train de se diplômer ne sont pas actifs. Donc on a aussi cet enjeu de... c'est pas seulement un public jeune, c'est aussi potentiellement un public jeune peu diplômé. Et donc cette question aussi de quels sont les emplois peu diplômés disponibles en première embauche.
Jérôme Gauthier, cette question-là de savoir finalement qui est actif, qui ne l'est pas dans cette population jeune, qui est quand même très hétérogène aussi, il faut le dire, elle est résolue d'une certaine manière lorsqu'on emploie ce fameux acronyme anglais, les fameux NEET pour N-E-E-T. En français, c'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. Ça permet de résoudre une partie du problème. Là, on est à 12,8% des 15-29 ans qui sont concernés. La moyenne européenne est à 13,1%. Bon, là, on voit déjà... On n'est pas si éloigné que cela d'une forme de moyenne, mais il n'empêche, là encore, il y a des bons élèves, l'Allemagne, 9,2%. Est-ce que c'est vraiment sur cette catégorie-là, cette espèce de trou noir, finalement, qu'on est particulièrement défaillant en termes de politique de l'emploi?
Alors, comme vous venez de le dire, on est dans la moyenne européenne, hein, et on est très proche des États-Unis sur le taux de NEET. Mais c'est vrai que ces NEET sont devenus une catégorie cible de la politique de l'emploi depuis une dizaine d'années maintenant, hein, c'est assez nouveau, et on s'est focalisé effectivement sur ces jeunes qui sont ni en emploi ni en formation, qui sont souvent aussi les jeunes les plus précaires, mais c'est une catégorie assez hétérogène parce que c'est aussi des jeunes qui peuvent être volontairement en dehors de la population active, et puis des jeunes qui voudraient être dans cette population active mais qui galèrent et qui n'y arrivent pas. Donc beaucoup de dispositifs se sont effectivement focalisés sur ces jeunes NEET depuis une dizaine d'années.
Alors nous avons parlé aussi, nous avons commencé à évoquer l'idée d'un niveau de diplôme aussi qui différencie tous les individus qui font partie de cette catégorie jeune. Je vous propose d'écouter deux témoignages récoltés pour France Info, c'était en mai 2025.
Les matins, je me concentre sur mon CV. Je regarde si je peux le retravailler, mais sinon, je fais beaucoup de candidatures spontanées. En général, on me dit que j'ai trop de diplômes et que j'ai pas assez d'expérience. On valorise extrêmement beaucoup l'alternance pendant nos études. Et en fait, quand on arrive sur le marché du travail, on nous dit, bah oui, mais vous avez rien fait. J'ai fait un bac plus 5 parce que mes parents m'ont dit, oui, vas-y, tu vas voir, tu vas trouver un travail et tout. Et en fait, je leur en veux beaucoup aujourd'hui.
Florence Yadaden, nous allons voir que cela fait un bout de temps quand même que les politiques publiques se préoccupent aussi de l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Est-ce que la nouveauté aujourd'hui, c'est qu'on peut dire que le diplôme ne protège pas nécessairement contre le chômage? Vous parliez du fait que finalement ce sont des niveaux de diplôme relativement bas. On vous parliez de deux ans d'études potentiellement. Vu qu'on parle des 18-20 ans, c'est quand même des gens très jeunes qui arrivent potentiellement sur ce marché du travail. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut se dire plus le niveau de diplôme augmente, plus les chances de ne pas obtenir d'emploi, de premier emploi, s'affaiblissent?
Est-ce que le niveau de diplôme protège?
Alors, le diplôme protège toujours. Le diplôme protège toujours, même si peut-être il protège moins. Alors, je pense que Jérôme Gauthier saurait mieux que moi pour ce qui est des données chiffrées. Le diplôme protège toujours, même si peut-être la période d'insertion post-diplôme s'est rallongée. C'est-à-dire le premier emploi arrive plus tardivement pour plus ou moins tous les jeunes. Ce que j'ai voulu dire tout à l'heure, c'est aussi qu'il n'y a plus d'emplois ou il y a très peu d'emplois disponibles immédiatement sans diplôme. C'est-à-dire la désindustrialisation du pays a mené aussi à ce qu'il n'y ait plus d'emplois pour les jeunes ouvriers, par exemple. Enfin, voilà. Donc le diplôme protège toujours, mais il y a aussi une forme de déclassement qui fait que certains jeunes avec un diplôme, pour aller très vite, prennent des emplois qui sont à niveau de diplôme inférieur au leur, ce qui va avoir un effet sur toute la chaîne, jusqu'à ce que les moins diplômés ne puissent de toute façon plus s'insérer. Mais je suis pas sûre que le diplôme soit l'unique facteur de ce rallongement de la période d'insertion. Et voilà, je pense qu'il y a aussi beaucoup de facteurs de l'ordre du social qu'on a du mal à prendre en compte. On en parlait à propos du suivi des missions locales, que les missions locales exercent auprès des jeunes. Il y a aussi tout un tas d'autres difficultés qui font que l'insertion peut être empêchée.
Oui, en fait, c'est ce qui est intéressant, et vous en parlez notamment dans votre ouvrage, et cette question de l'insertion sur le marché du travail, mais qui renvoie finalement à une insertion beaucoup plus globale, une insertion sociale beaucoup plus large. On pourrait ajouter à cela la question du logement aussi, qui est structurante dans ces problématiques-là. On le voit, il y a des lignes quand même qui bougent, cet allongement de la durée du temps que l'on passe au chômage, des profils nouveaux aussi, cet effet d'embouteillage finalement que vous venez de nous décrire, Florence Yadaden. Jérôme Gauthier, alors je ne vais pas révéler de secret à l'antenne, mais vous avez soutenu votre thèse en 1995 qui portait justement sur ces problématiques-là. Très concrètement, à partir de quand les politiques publiques font de l'insertion des jeunes sur le marché du travail une politique publique en soi? Quand est-ce qu'on prend conscience que tout cela va finir par poser problème et qu'il faut s'attacher à ce problème spécifiquement?
Ça remonte aux années 70, en fait. Dès le premier choc pétrolier, dès 1974-1975, on met en place des dispositifs en faveur des jeunes, notamment les fameux stages Grenet, qui, je crois me souvenir, c'était le secrétaire d'État à l'emploi à l'époque. Et donc, avec ce double objectif, à la fois de baisser le coût du travail des jeunes, parce qu'on va aussi, à cette époque, lancer des grands plans des pactes emploi, en fait, hein, pour baisser c'est le coût du travail des jeunes sous forme d'aides diverses et notamment d'abaissement de cotisations sociales ou de subventions à l'emploi, puis le plan Avenir Jeune au début des années 80. Donc c'est vraiment une constante depuis le milieu des années 70.
Et donc c'est une constante qui se concentre, d'après ce que vous nous dites, plutôt sur le coût finalement du travail.
À la fois le coût et la formation, en fait. D'abord c'est le coût, dans les années 70 c'est beaucoup le coût, et puis à partir du début des années 80, il y a une double inflexion. D'une part, on va s'intéresser plus à l'accompagnement et notamment à l'accompagnement plus global. Et c'est à ce moment-là que sont créées les missions locales de l'emploi, après le rapport Schwartz, hein, de 1980, dont parlait Florence. Et puis, l'aspect formation. Et on lance, à partir du début des années 80, hein, sous Mitterrand aussi, des formations en alternance, notamment le contrat de qualification et le contrat d'adaptation, avec cette idée de dire, on a comme modèle un peu l'apprentissage allemand, hein, cette formation duale, comme on dit, c'est-à-dire on passe une partie du temps en entreprise et une partie du temps en formation, et on voudrait développer de façon structurelle beaucoup plus l'apprentissage qu'il n'est développé à l'époque, ou l'alternance de façon plus générale.
C'est intéressant ce développement de l'apprentissage, Florence Yadaden, puisque derrière cela, bon, il y a évidemment une logique de meilleur appariement, comme on dit en termes économiques, sur le marché du travail, mais il y a aussi cette idée de professionnalisation, de faire en sorte que offre et demande se croisent, que l'un intéresse l'autre. Ça, c'est une forme de tournant aussi dans les politiques publiques, cette notion même de professionnalisation.
Alors moi, je la formule comme un tournant en termes de politique d'activation, qui a lieu donc un peu plus tard que ces politiques des années 80. Peut-être, moi, je les situe à peu près à la fin du CPE, justement, et à la période Nicolas Sarkozy. Bon, pour moi, un des programmes un peu emblématiques de cette activation, c'est le service civique, par exemple, en 2010. Donc, on a cru qu'on avait gagné sur le CPE et puis on a récupéré le service civique. Des dispositifs donc, qui, dans le but de professionnaliser, passent par du travail gratuit. En tout cas, une nécessité pour les jeunes de faire leurs preuves. de faire leurs preuves sur, déjà en travaillant sur le marché du travail, et de faire aussi des preuves qui sont plus larges que juste la professionnalisation, mais aussi une bonne volonté, une bonne moralité, pour certains une bonne citoyenneté, et donc voilà, tout un registre qui dépasse même la professionnalisation.
C'est ce que nous disait le témoignage qu'on vient de diffuser sur cette idée d'une expérience qui était très valorisée aussi sur les CV. Jérôme Moutier, je me suis tout de même interrogée, parce qu'en préparant cette émission, je me suis rendu compte qu'il y avait tout de même eu 1994, le contrat d'insertion professionnelle. J'ai l'impression que tous les 20 ans, finalement, il y a peut-être un grand jalon de cet acabit. Finalement, vu ce qu'on vient de dire, on pourrait s'étonner que le CPE ait eu lieu dans un contexte où on pensait déjà un peu plus l'accompagnement, un peu plus la professionnalisation, un peu plus la qualité des parcours, plus que la quantité de jeunes sur le marché. Alors pourquoi avoir mis en place une politique qui est finalement une politique du coût du travail? Enfin, pour le coup, le CPE, c'était ça.
Alors, je crois que ce qui était spécifique à la France, en fait, c'était la question du SMIC, en fait. Et finalement, le CPE, c'était un SMIC jeune, en fait. C'était, et d'ailleurs,
Il y avait eu des manifestations en 94 pour lutter contre
ça. Et il y avait eu des manifestations, moi-même, j'avais... Enfin voilà, on avait, avec des collègues de l'INSEE, écrit sur ce sujet. Alors pourquoi? Parce qu'à l'époque, le SMIC français, effectivement, en termes relatifs, hein, c'est-à-dire si on le rapporte au salaire moyen, au salaire médian, il était particulièrement élevé. Hein, il est resté pendant très longtemps parmi les plus élevés des pays de l'OCDE, en termes relatifs. Et l'idée, c'est de dire, ben voilà, ça, c'est une barrière à l'entrée des jeunes. En fait, le fait qu'on ait un SMIC particulièrement élevé. Or aujourd'hui, et c'est ça qui est étonnant dans la proposition du MEDEF, c'est que aujourd'hui on a depuis, et parce que depuis un certain nombre d'années on a eu des politiques d'abaissement du coût du travail très importantes, hein, les premières ont été mises en place dès le début des années 90, mais aujourd'hui, en termes de coût du travail, on a été dépassé par, au niveau du salaire minimum, hein, par des pays comme le Royaume-Uni, comme l'Allemagne par exemple, etc. Donc le problème se pose quand même très différemment. Et d'autre part, on a très fortement développé l'apprentissage. J'avais dit, il y a eu une première impulsion dans les années 80, mais qui n'a pas été vraiment très efficace. L'envol de l'apprentissage en France, c'est vraiment en 2018, hein, la loi qui a été adoptée en 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel, où là, l'apprentissage depuis a été multiplié par 3, pratiquement, et notamment dans l'enseignement supérieur, niveau licence et master, il a été multiplié par 5. Donc on a pratiquement, en 2025, on avait à peu près 900 000 entrées en apprentissage, donc c'est énorme. Et donc, avec l'apprentissage, on a trouvé une modalité acceptable socialement, qui permet à la fois d'articuler une baisse du coût du travail et de la formation et de l'acquisition de formation professionnelle. Et donc, finalement, on avait un peu toutes les facettes que l'on essayait d'atteindre jusque-là par différents dispositifs.
C'est une forme de compromis. Florence Ihaladen, est-ce qu'on peut se dire que 2006 a agi aussi comme une forme de prise de conscience? On se dit que juste agir sur la demande, donc c'est-à-dire du côté des employeurs en baissant le coût du travail, ne suffira pas et qu'il faut mettre en place d'autres politiques plus centrées sur l'accompagnement des jeunes en tant qu'individus aussi, leur parcours professionnel. Ça, c'est une façon de trouver une forme de compromis social aussi, de parler d'insertion de façon plus large.
En tout cas, ce qui va avec 2010, oui, c'est l'idée, notamment dans le livre vert pour une politique globale de la jeunesse qui est porté par Martin Hirsch, suite à la fois aux manifestations du CPE et aussi aux révoltes urbaines de 2005. L'idée qu'il faut répondre aux problèmes au pluriel de la jeunesse et pas seulement à cette question de l'insertion sur le marché de l'emploi, etc. Et donc, penser voilà, une politique du logement, une politique des bourses, une politique, etc., qui peut favoriser cette insertion sur le marché de l'emploi.
Mais ce qui est intéressant par ailleurs, c'est que, et vous l'étudiez d'ailleurs très bien dans votre ouvrage, c'est que on a cette très vaste catégorie jeune et en même temps on a une forme d'individualisation aussi de ce qu'est être jeune aussi sur le marché du travail. On peut revenir à des exemples très récents. C'est le dispositif Un jeune, une solution, mis en place en 2020, alors dans un contexte très spécifique aussi, hein, qui est celui de la crise sanitaire, entre autres. Est-ce que ça, c'est un mouvement que vous observez à l'échelle plus large? Et puis surtout, quelles conséquences de cette individualisation, finalement, des dispositifs?
Alors effectivement, Un jeune, une solution, ça me paraît vraiment emblématique de cette individualisation qui ne date pas de ce moment-là, mais qui, en tout cas, qui est presque assumée. Donc c'est Un jeune, un parcours.
C'est dit dans le titre.
Ouais. Voilà. Et en plus, c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, le plan Un jeune, une solution, c'est une boîte à outils de programmes qui existent déjà. Apprentissage, service civique, mentorat. Bon, le mentorat, c'est peut-être un peu la nouveauté parce que voilà, on y met beaucoup de budget d'un coup. Mais en tout cas, voilà, tout un tas de dispositifs qui existent déjà, qui, en tant que tels, n'ont pas tellement réglé le problème, mais qui, peut-être, combinés les uns aux autres, pourrait faciliter l'insertion individuellement. Et donc, il y a cette idée que plutôt que d'être dans le « un programme pour tous, une solution pour tous », on va entrer dans « chacun construit sa propre insertion ». Ce qui pourrait en soi donner une impression de mieux, de programme plus accompagnant, plus individualisant, mais ce qui en fait, me semble-t-il, ce que je défends dans le livre, reproduit encore plus les inégalités préexistantes à ces parcours, reproduit les assignations sociales, les assignations genrées, les assignations ethniques, etc.
Jérôme Gauthier, là je m'adresse à l'économiste que vous êtes, est-ce qu'effectivement prendre les parcours individuellement, s'attacher à comprendre aussi, à mettre en place cette logique de un individu, une solution, un jeune, une solution, peut être efficace? Est-ce que ça peut être finalement un des leviers à activer, et la caractéristique aussi peut-être de la politique de l'emploi vis-à-vis des jeunes des années 2020 dans lesquelles nous situons?
Alors, je crois que cette politique, elle part d'un constat simple, c'est que la jeunesse est très hétérogène. Bon, les sociologues le savent très bien. Comme disait Bourdieu, la jeunesse, ça n'existe pas. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue économique, parce que on parlait tout à l'heure du niveau de diplôme. Hein. Aujourd'hui, par exemple, les jeunes sans diplôme, leur taux de chômage est de 41%. Bon, il est quatre fois plus élevé que les jeunes diplômés du supérieur. Donc, on est dans des mondes aussi assez différents. Et donc, on comprend bien que adresser le problème du chômage des jeunes avec une seule politique est peut-être pas complètement adapté. Et donc pour les jeunes, notamment les plus les moins diplômés, comme l'a dit Florence aussi, le diagnostic qui a été fait, c'est aussi que le problème est plus large qu'un simple problème économique, et un problème aussi pour certains de désocialisation. Mmh. Et donc on a vu des dispositifs apparaître de resocialisation. Alors le service civique en fait partie, même si c'est pas celui peut-être qui s'adresse le plus aux jeunes les plus fragiles, mais je pense notamment à la garantie jeune qui a été un dispositif très important à partir de 2013, qui est aujourd'hui relayé par le contrat engagement jeune, où ces dispositifs à la fois ils ont pour but de mettre les jeunes en emploi, mais aussi de les resocialiser, et donc ils ont une composante assez forte aussi d'inculquer la norme, de resocialiser, de contrôler par certains côtés, on peut le dire.
Florence Yadaden, j'ai l'impression que vous vouliez réagir. Et puis une dernière question pour clôturer cet échange. Si on voulait mettre en place une politique à destination des jeunes efficace, quelle devrait être la priorité selon vous?
Je voulais surtout pas qu'on finisse cette émission sans remarquer l'injonction paradoxale qu'il y a à la fois proposer un contrat à durée indéterminée de plus en moins, enfin peu indéterminé, enfin de plus en plus précaire, et en même temps que le CDI soit toujours la norme locative et soit toujours, l'entrée dans la vie
sociale de
façon
plus générale.
Et en même temps écrire des lettres à des jeunes femmes pour qu'elles fassent des enfants, alors qu'on sait que la principale contrainte pour construire sa famille, c'est d'avoir un emploi stabilisé.
On retombe sur un serpent qui se mord avec ce point de vue.
Exactement, mais du coup, quelle réponse on a à faire à la jeunesse qui ne soit pas qu'une réponse qui soit à faire aux employeurs. Et donc, quelle réponse, quelle solution? J'en ai pas beaucoup après avoir écrit ce livre. La seule réponse que je trouve, c'est peut-être que... de faire un peu de place sur le marché du travail, et peut-être en réduisant un peu la durée du travail et en partant un peu plus tôt à la retraite, en commençant à réfléchir notre rapport à l'emploi à toutes et tous.
Et limiter potentiellement les effets d'embouteillage que nous avons évoqués tout au long de cette émission. Un grand merci à tous les deux, Florence Yadaden et Jérôme Gauthier, d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, direction la seconde partie d'Entendez-vous l'écho, qui se poursuit, où on va remonter l'histoire très longue de notre économie, en l'occurrence... Attention, on va atterrir en plein 19e siècle, alors que la France cherche sa place au sein d'une mondialisation naissante.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette Ovine.
Depuis une cinquantaine d'années, l'aspect économique des relations internationales est devenu très important. On le voit tous les jours, les grands moments de la vie internationale normale sont régulés par des événements dont beaucoup sont économiques. La réunion du Fonds monétaire, les réunions de l'Union européenne, la réunion de Davos, qui même n'est pas officielle, mais qui quand même joue un rôle. Il y a énormément de lieux qui sont devenus des éléments essentiels de la vie économique. Et si on regarde les agendas des ministres des Affaires étrangères, on voit qu'une bonne partie de leur temps est occupée à cela. Ce qui est nouveau, probablement, c'est que les questions économiques ont pris une certaine autonomie. Je ne veux pas dire qu'elles soient séparées de la politique étrangère, mais on agit sur des leviers économiques pour eux-mêmes. Autrefois, c'était exceptionnel que l'on ait une négociation qui soit uniquement centrée sur des questions économiques. Enfin, autrefois, je veux dire, au 19e siècle. On négociait des accords commerciaux, assez limités, mais c'était tout. Et si on regarde les grandes conférences internationales du 19e siècle, les questions économiques étaient traitées de manière secondaire. C'était pas cela qui était important. C'est devenu maintenant important.
Le bruit discret d'une cigarette qu'on allume en studio, la voix d'un homme qui compare les pratiques de son époque à celles du 19e siècle. Et déjà, nous voilà dans une autre dimension temporelle. L'archive que vous venez d'entendre ne date que de 2003. Cela se passait sous le contrôle de Jean Lebrun, alors producteur de l'émission Pot-au-feu sur France Culture. Et cette voix, c'est celle de Guy Caron de la Carrière, né en 1929, nommé secrétaire d'État aux affaires économiques extérieures en 1959 et qui évolue ensuite entre la direction des relations économiques extérieures et le Centre français du commerce extérieur. Ce témoignage, c'est celui de l'évolution du rôle de l'économie dans les relations internationales, d'un État en quête de croissance économique et d'entreprises qui cherchent peu ou prou la même chose, quand bien même ce ne serait pas pour les mêmes raisons. C'est aussi un regard sur ce qu'il se passe aujourd'hui, retour en force de la fameuse géoéconomie, nouveau lieu de la négociation et vieux débat entre protectionnisme et libre-échange dont l'actualité est saturée. Face à ces tensions, défendre ses intérêts nationaux est un exercice plus périlleux que jamais. Encore faut-il, pour se faire entendre, avoir de solides bases. Mais est-ce le cas de la France? Peut-on parler d'une doctrine commerciale qui la caractériserait? Quel est au juste son logiciel entre protectionnisme et libre-échange? Pour répondre à ces questions, Entendez-vous l'écho entame une série en 4 épisodes consacrée à l'histoire de la politique commerciale française. Et dans ce tout premier épisode, nous remontons aux racines de sa fabrication, alors qu'une première forme de mondialisation prend pied. Et nous allons le faire avec notre invité du jour, Léo Charles. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en sciences économiques à l'Université de Rennes 2. Vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Protection, spécialisation et croissance économique pendant la première mondialisation en France et en Suisse, 1850-1913 ». Et vous êtes avec nous à distance depuis les studios d'ici à Quimper, où Alexandre Lechaud assure le duplex et je l'en remercie. Alors en premier mot, peut-être Léo Charles, est-ce que vous êtes d'accord avec Guy Caron de la Carrière? L'économie est devenue aujourd'hui un tenant majeur des relations internationales au point de s'autonomiser du reste des relations diplomatiques. Est-ce que c'est ainsi qu'on peut caractériser le moment tel que nous le vivons aujourd'hui?
Entièrement d'accord. C'est intéressant parce que en sous-texte, il y a un peu la définition en fait du néolibéralisme où les États, le politique va venir servir les intérêts de l'économique, ce qui effectivement n'est absolument pas le cas au 19e siècle, du moins en France.
Ça allait être ma seconde question. Est-ce qu'effectivement, au 19e, on ne pense pas du tout les choses ainsi? Il n'est pas question de séparer ces deux sphères. Autrement dit, il n'est pas question de parler de politique commerciale sans évidemment inclure l'État et puis éventuellement donner la parole aux acteurs économiques. Mais en tout cas, les deux vont nécessairement ensemble dès lors qu'on parle de relations commerciales internationales.
Oui, au 19e siècle, on a plutôt cette tendance à considérer la politique commerciale comme étant au service alors de la puissance, on pourrait dire hégémonique d'un pays, ou même comme fonction quasiment stabilisatrice de la société. Et donc, on a vraiment cette question d'abord politique et ensuite peut-être en second main une question plus économique.
Il y a quelque chose d'autre qui est assez frappant, je trouve, dans les débats actuels. Il y a des tensions très larges entre libre-échange versus protectionnisme, qui est incarné de différentes façons. Il y a ceux qui se réjouissent finalement de la mort du multilatéralisme, d'autres qui en profitent aussi pour renforcer des liens bilatéraux. On voit que tout se reconfigure parfois beaucoup plus rapidement que prévu. Mais ce que je trouve assez structurant aussi, c'est que en plus des arguments économiques, en plus des arguments très rationnel sur est-ce que cela va, pour porter préjudice à nos économies nationales, il y a des formes de critiques quasiment ad hominem, quasiment personnelles, notamment cet été, lorsque Ursula von der Leyen avait négocié avec Donald Trump les tarifs qui devaient rentrer en vigueur pour l'Union européenne. Beaucoup avaient dit qu'elle s'était couchée, il y avait des attaques très personnelles, il y avait presque une question d'honneur là-dedans. De ce point de vue-là, ces débats, du point de vue de l'historien aussi de l'économie que vous êtes, est-ce qu'ils vous étonnent? Est-ce que cette double dimension, à la fois très théorique d'un point de vue économique et puis très personnel, avec vraiment un engagement aussi de ce qu'on représente à l'étranger, est-ce que c'est entièrement nouveau selon vous?
Non, c'était le cas aussi au 19e siècle. Il faut voir les archives parlementaires. Les discussions actuelles sont très saines, contrairement à ce qu'on pouvait voir dans les archives du 19e siècle. Donc il y a bien des attaques ad hominem, des attaques personnelles. Il y a bien des incarnations, que ce soit du libre-échange ou du protectionnisme, aussi au 19e siècle. Et il y a aussi ce débat théorique, alors qui va plus concerner peut-être les partisans du libre-échange, qui eux ont une doctrine héritée de l'économie classique anglaise, britannique, contrairement aux protectionnistes qui, notamment en France, sont plus peut-être dans des arguments concrets de défense du travail national et sans structure théorique claire, malgré quelques auteurs qui transparaissent par-ci par-là.
Alors là, il faut bien nous aider à comprendre aussi et puis nous donner des éléments de contexte sur ce qu'il se passe justement dans ce très long 19e siècle et potentiellement à plus forte raison à partir de 1850, de la moitié de ce 19e siècle. Est-ce que le débat tout de même, la façon dont le débat public se saisit de ces questions-là est dans un premier temps, et on peut même se dire dès le début du 19e siècle, est bien davantage théorique. Ce sont davantage des questions qui occupent les économistes entre eux, les théoriciens entre eux. Et dans un premier temps, on se pose davantage la question de est-ce que cela va être bénéfique ou non à l'économie, bien plus que quelle image cela renvoie de la France à l'étranger. Est-ce qu'on peut dire que c'est un débat presque d'experts avant tout?
Oui et non. C'est-à-dire que, on va dire qu'à partir de 1825 jusqu'en 1834, on a vraiment cette théorie libérale, cette théorie du libre-échange qui va se diffuser un peu partout en Europe. Et donc, effectivement, là, on a clairement un débat qui est aux mains des grands intellectuels, des grands professeurs de l'époque. Mais on va avoir quand même des réactions protectionnistes qui sont peut-être moins structuré par la théorie. Entre 45 et 51 notamment, on va avoir une réaction protectionniste. Et ensuite, ce qui est assez intéressant, comme je vous disais, c'est que le mouvement libre-échangiste va garder finalement cet ancrage théorique et ne va pas comprendre, notamment en France, qu'il perd les populations, qu'il perd les masses, et que son discours visant à dire progrès de l'économie française, croissance économique, mais sacrifice aussi d'un autre côté, ça va pas marcher. Et les protectionnistes, dès les années 1870, vont un peu justement critiquer en fait ce positionnement théorique très hors sol de ces grands universitaires pour ramener les choses sur des arguments que la masse populaire peut comprendre. Défense du travail national, défense de l'agriculteur, etc.
Mais ce qui est intéressant à vous lire, Léo Charles, c'est qu'on a tout de même l'impression que les économistes se sont saisis, d'un point de vue théorique, de la question des échanges commerciaux internationaux avant même que cela ne devienne une forme de réalité, avant même que ça prenne l'ampleur que cela a pris à partir de 1850. On pourrait se dire que dès le 16e, 17e, 18e siècle, les bases théoriques étaient déjà posées. Il y avait déjà des partisans du libre-échange, des partisans du protectionnisme, alors même que, voilà, encore une fois, certes, il y avait du commerce au long cours, mais certainement pas dans les proportions qu'on a pu voir par la suite. On avait les mercantilistes, on avait les physiocrates. Est-ce que de ce point de vue-là, on peut se dire tout de même que la France, forte de ces pensées d'économistes-là, avait déjà fait son choix entre protectionnisme et libre-échange au cours des 16e, 17e, 18e siècles? Est-ce qu'elle avait, son cœur avait déjà balancé, on va dire, pour une théorie plutôt qu'une autre?
Alors, on va dire que l'histoire longue de la tradition française est plutôt protectionniste. Vous l'avez bien rappelé, on a quand même l'école physiocrate qui, alors sans miser sur le protectionnisme, notamment industriel, puisque on met l'agriculture au centre, mais ça, c'est des choses qu'on va retrouver fin 19e, hein, cette agriculture au centre. Puis le mercantilisme à la française, souvent on a ce terme-là. Donc, on a quand même vraiment une tradition protectionniste. D'ailleurs, il y a la Chambre de commerce de Lyon au 19e siècle dit « Tous ces gens-là ont des âmes protectionnistes et c'est nous, à deux ou trois, qui leur faisons croire qu'ils aiment la liberté. » Donc il y a vraiment cette tension en France où on a une tradition libre-échangiste et finalement il va y avoir... une tradition protectionniste et finalement il va y avoir juste une petite parenthèse avec Napoléon III, où là, on va imposer le libre-échange, mais quasiment par la force, puisqu'on parle de coup d'État douanier.
Donc on le comprend, le discours protectionniste est plutôt bien ancré, même si on va voir qu'en fonction des circonstances historiques et puis politiques, les choses vont parfois évoluer. Et puis il y a une autre question qu'il faut se poser, Léo Charles, c'est de savoir dans quelle mesure l'État, vraiment en tant qu'institution, se saisit de cette question du commerce international. On peut se dire qu'en tout état de cause, le commerce extérieur devient une affaire d'État centralisée au début du XVIIe siècle, lorsque le pays se dote d'une statistique du commerce extérieur. Mais avant cela, comment ça fonctionnait finalement? Chaque entreprise faisait des affaires là où elle avait envie d'en faire selon son bon vouloir et selon sa stratégie qui lui était propre. Et avant le XVIIe et cette forme de centralisation par la donnée, il n'y avait pas vraiment de représentation officielle française en termes de commerce international.
Alors, je suis moins spécialiste de cette période-là, mais oui, effectivement, on n'avait pas de centralisation, et puis même, je dirais qu'on avait très peu ce regard vers l'extérieur, à part, vous l'avez bien rappelé, sur le commerce au long cours, mais il va falloir attendre le mercantilisme, voilà, 16e, 17e, 18e siècle, pour vraiment sentir que, dans la théorie économique et dans les pratiques, le commerce international devient un vecteur d'affirmation de la puissance de l'État, et finalement, la tradition française repose un peu sur ça. Le commerce extérieur est vu comme une façon d'asseoir l'État et de montrer finalement que on a une certaine hégémonie et on peut construire notre nation à partir de ce commerce extérieur.
Pourquoi est-ce important, Léo Charles, de se doter d'un service ou en tout cas d'une administration capable de produire des données chiffrées, d'avoir un suivi régulier de ces statistiques extérieures? Qu'est-ce que cela change fondamentalement?
Alors, déjà, la première raison, c'est l'impôt, c'est-à-dire que les droits de douane sont, dans quasiment tous les pays européens, la très grande partie, la très grande majorité des revenus de l'État, ce sont les droits de douane. Donc, déjà, en fait, il faut compter pour savoir où on en est. Et ensuite, les 10 premières années du développement de cette statistique commerciale, c'était vraiment ce rapport de pouvoir quasi hégémonique, de dire quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses, où c'est que je peux appuyer, où c'est que je peux négocier pour favoriser mon industrie ou mon agriculture. Et ensuite, à partir de 1850-1860, la statistique commerciale va réellement se professionnaliser, tout simplement parce que dans les négociations commerciales, dans les négociations des traités de commerce avec l'étranger, on recueille les demandes des chambres de commerce, des industriels, etc. Et le tarif douanier, il est fait, mais position par position, produit par produit. Et donc, on a besoin, en fait, de savoir un peu dans la masse de tout ce qu'on échange, quelles sont précisément toutes ces positions en termes chiffrés.
Des chiffres qui comptent dans un contexte où les échanges s'intensifient, on le disait, c'est le cas à partir de la première moitié du 19e siècle, l'ouverture progressive des économies nationales à partir donc de la moitié de ce siècle, le commerce s'internationalise. Et c'est Honoré de Balzac qui nous en donne un bon aperçu de ce qu'était être commerçant au début de ce siècle dans son roman César Birotteau, du nom d'un parfumeur qui, au cours du récit, se rend chez le banquier François Keller.
Le soleil de la supériorité scintillait, éblouissait le parfumeur comme la lumière aveugle sur les insectes, qui veulent un jour doux ou les demi-ténèbres d'une belle nuit. Sur une immense table, il apercevait le budget, les 1000 imprimés de la chambre, les volumes du moniteur ouverts, consultés et marqués pour jeter à la tête d'un ministre ses précédentes paroles oubliées et lui faire chanter la palinodie aux applaudissements d'une foule niaise, incapable de comprendre que les événements modifient tout. Sur une autre table, des cartons entassés, les mémoires, les projets, les 1000 renseignements confiés à un homme dans la caisse duquel toutes les industries naissantes essayaient de puiser. Le luxe royal de ce cabinet plein de tableaux, de statues, d'œuvres d'art, l'encombrement de la cheminée, l'entassement des internationaux ou étrangers amoncelés comme des ballots, tout frappait Birotteau, l'amoindrissait, augmentait sa terreur et lui glaçait le sang. Sur le bureau de François Keller gissaient des liasses d'effets, des lettres de change, de circulaires commerciales. Keller s'assit et se mit à signer rapidement les lettres, qui n'exigeait aucun examen. « Monsieur, à quoi dois-je l'honneur de votre visite ?» lui dit-il. À ces mots, prononcés pour lui seul par cette voix qui parlait à l'Europe,
Pendant que cette main avide allait sur le papier, le pauvre parfumeur eut comme un fer chaud dans le ventre. Il prit un air agréable que le banquier voyait prendre depuis 10 ans à ceux qui avaient à l'entortiller d'une affaire importante pour eux seuls, et qui déjà lui donnait barre sur eux. François Keller jeta donc à César un regard qui lui traversa la tête, un regard napoléonien. L'imitation du regard de Napoléon était un léger ridicule que se permettaient alors quelques parvenus qui n'ont même pas été le bilon de leur empereur. Ce regard tomba sur Birotteau, homme de la droite, séide du pouvoir, élément d'élection monarchique, comme un plomb de douanier qui marque une marchandise.
Entendez-vous, l'écho remonte aux origines de la politique commerciale française et nous sommes toujours en compagnie du maître de conférence en sciences économiques à l'université de Rennes 2, Léo Charles. Alors cet extrait nous fait comprendre en filigrane toute l'étendue des affaires commerciales. Ce sont les 1000 renseignements, les intérêts nationaux ou étrangers entassés et puis le plomb du douanier, alors qui intervient comme une métaphore mais qui est tout de même présent. L'ouvrage de Balzac paraît en 1837. Le 19e siècle, c'est quelque part, Léo Charles, la mise en application à grande échelle de toutes les théories que nous venons d'évoquer, élaborées par les économistes. En quoi consistent les échanges internationaux à cette époque-là, très concrètement ?
Très concrètement, c'est des échanges internationaux assez inégaux, on va dire. C'est-à-dire que vous avez les pays d'Europe de l'Ouest qui vont plutôt exporter des produits manufacturés et qui vont importer des produits primaires de pays qu'on appellerait aujourd'hui pays du Sud, avec, il faut pas l'oublier, quand même le rôle de la colonisation là-dedans aussi. Donc on est dans quelque chose de très classique, de très ricardien, un commerce basé sur des avantages comparatifs.
Et ce qui est intéressant, et c'était une question que je voulais vous poser, c'est de savoir dans quelle mesure on peut parler de stratégie ou en tout cas de politique commerciale pensée comme telle et puis mise en place comme telle. Vous l'avez rappelé, mais quand même jusqu'en 1914, la France est considérée comme une économie à dominante agraire, donc c'est vraiment l'agriculture qui compte énormément. C'est surtout l'exportation de produits agricoles comme les céréales ou le vin qui porte un peu la dynamique du commerce extérieur. De ce point de vue-là, on pourrait dire c'est pas vraiment un choix. La France agit ou en tout cas s'adapte finalement à ce qui lui est géographiquement donné, à une forme de donnée naturelle, et ce n'est pas vraiment une politique stratégique en tant que telle. Comment faire la part des choses, Léo Charles ? Est-ce qu'effectivement elle se contente de faire en fonction de ce qu'elle a, comme c'est des pays voisins, ou est-ce qu'il y a vraiment une forme d'inflexion, on va dire, plus stratégique à ce moment-là ?
Alors, en France, on va pas avoir cette inflexion stratégique, ou alors sur quelques secteurs comme la chimie ou comme l'automobile qui apparaissent à la toute fin du 19e siècle, début 20e. Mais on a vraiment une stratégie basée sur la sécurisation des intérêts en fait intérieurs. La République a besoin d'être unifiée, d'être moderne entre guillemets, d'être apaisante en fait pour les esprits. Et donc on va plutôt chercher la défense des intérêts agricoles, des intérêts industriels, le marché intérieur plutôt que ce commerce extérieur. Donc on va plutôt miser sur ce qu'on a, ce que l'on sait faire, sans trop perturber finalement la société. Il y a des pays comme en Allemagne ou en Suisse qui ont une stratégie totalement différente. Il faut savoir que un avantage comparatif, ça peut aussi tout à fait se construire. La France n'est pas dans cette vision de construction d'un avantage comparatif, mais plutôt d'une défense des intérêts nationaux. La Suisse ou l'Allemagne ont utilisé le protectionnisme pour faire émerger de nouvelles industries, de la seconde révolution industrielle, pour être moderne, pour s'insérer dans la mondialisation. Donc là, il y a vraiment une stratégie commerciale.
En même temps, il faut dire aussi que si ces intérêts nationaux sont particulièrement bien défendus, c'est aussi parce qu'ils sont très représentés. Et là, ça devient une histoire d'hommes et une histoire plus politique aussi. En février 1846, est créée l'Association pour la liberté des échanges. On n'y retrouve pas que des économistes, pas que des théoriciens, mais aussi des hommes d'affaires. De ce point de vue-là, c'est une forme de tournant. Ça donne un peu le point de départ aussi à une forme de représentation des intérêts qui va marquer cette époque-là, Léo Charles.
Oui, tout à fait. En fait, on se rend compte en 1846 que si on veut affirmer des intérêts en matière de politique économique, il faut se structurer, il faut se coaliser. Ça, l'exemple, c'est tout le débat autour des Corn Laws en Grande-Bretagne qui ont imposé le libre-échange sur les céréales. Et les libre-échangistes français ont très vite compris que voilà, il fallait se mobiliser pour défendre ses intérêts. Et c'est quelque chose que va reprendre, retrouver le mouvement protectionniste qui, dès les années 1878, va se structurer autour voilà, de la défense de l'industrie. Ils vont amener aussi les agriculteurs dans cette coalition. Donc l'idée, en fait, très classique, c'est de se dire, si je veux peser sur la politique commerciale française, il faut constituer un bloc social dominant. Certes, nos intérêts sont peut-être divergents sur certains points, notamment on retrouve des républicains et des conservateurs hein, dans le bloc protectionniste. Mais voilà, entendons-nous pour influencer la politique commerciale française.
Est-ce qu'on parle de patriotisme économique à cette époque-là, Léo Charles, ou pas tout à fait, ou en tout cas pas en ces termes ?
Peut-être pas en ces termes, mais oui, en sous-texte, on a cette idée de patriotisme, cette idée de pourquoi on irait s'embêter en fait à développer des marchés extérieurs. C'est très incertain. On a toutes les forces au niveau national. On a des millions d'agriculteurs. La majorité de la population française est paysanne ou agricultrice. Et donc, il y a vraiment cette idée, alors pas de patriotisme, mais de finalement, on a un marché intérieur qui est là, qui est dynamique. Pourquoi on irait s'embêter à prendre des risques finalement sur les marchés extérieurs. En gros, développons-nous chez nous avant d'aller voir ailleurs. C'était un peu la doctrine à partir des années 1880.
Oui, il n'empêche qu'avant cela, il y a tout de même un certain nombre de traités qui sont signés. Alors bon, il y a le fameux traité du 23 janvier 1860, qui est un traité de libre-échange franco-britannique. Là aussi, c'est un tournant assez important. Au-delà de cette parenthèse de libre-échangiste que vous décriviez en début d'émission, il y a tout de même cette idée que la France, enfin, dès lors qu'on parle de négociation de traité, on parle aussi de diplomatie, potentiellement de diplomatie économique. Est-ce que c'était le cas à ce moment-là, en cette fin de 19e siècle, il y a des diplomates spécialisés dans le commerce extérieur, dans les affaires extérieures, et donc une position française? Est-ce que la France, lorsqu'elle va négocier des traités, se pose la question de savoir quel est l'état de ses relations diplomatiques avec son voisin, qu'est-ce qu'on peut lui imposer ou non au risque d'eux? Est-ce que tout cela forme une forme de diplomatie économique en tant que telle?
Alors non, pas en tant que tel, et c'est ça un peu la particularité de la France à cette époque. On a une diplomatie économique qui ressemblait plus à une défense des intérêts français face à la menace extérieure plutôt qu'à une volonté de conquête des marchés extérieurs. Notamment, on trouve dans les archives beaucoup d'industriels exportateurs qui se plaignent du fait que les ambassades à l'étranger ne s'occupent pas du tout de l'information économique. Et à la même époque, en Suisse ou en Allemagne, on a des ambassadeurs, des pôles économiques dans les ambassades à l'étranger chargés de récolter des statistiques sur les consommateurs locaux, sur les forces, les faiblesses de tel marché pour pouvoir finalement négocier ces traités de commerce avec le plus d'informations et pour pouvoir trouver des débouchés. La France, voilà, on va manquer de cette diplomatie-là, de ces informations-là, mais parce qu'encore une fois, la volonté, ce n'est pas tant d'exporter que d'avoir une protection des forces centripètes, on pourrait dire.
Alors, un documentaire qui avait été diffusé sur l'ORTF en janvier 1970 revient justement sur les années 1880, cette fin du 19e siècle, et évoque un personnage qui va beaucoup compter, c'est celui de Jules Méline.
Au même moment, l'agriculture est touchée. Le phylloxéra détruit les vignobles. Les blés étrangers sont moins chers que les blés français. Sous l'influence du ministre de l'Agriculture de Ferry, Jules Méline, la France renonce alors à la politique du libre-échange instituée par le Second Empire. Pour protéger les produits français, des droits de douane sont établis. Beaucoup s'en félicitent.
Mais si les blés étrangers payent un droit, on nous vendra le pain plus cher. Oui, mais il sera fait avec du blé français.
Bon voilà, c'est un extrait de cette époque, hein, 1970, comme je vous le disais, qui résume bien aussi ce rapport aussi à la défense du marché national, du marché français. Léo Charles, est-ce qu'on peut se dire que finalement la politique commerciale française, si on chercherait à la caractériser en cette fin d'émission, c'est finalement une forme de compromis entre ce libre-échange qui a quand même caractérisé une grande parenthèse chronologique, et puis ce protectionnisme qui est bien ancré aussi dans les intérêts des grands groupes industriels et puis de l'agriculture. Est-ce que ce qu'on parvient à mettre en place, c'est voilà, des tarifs, des droits de douane qui finalement conviennent à tout le monde ?
Oui, parce que quand on regarde réellement dans le détail la loi justement Méline de 1892, on a vu que, enfin, beaucoup de gens disent que c'est le retour du protectionnisme en France, etc. En réalité, c'est assez modéré. Alors, il y a une forte protection de l'agriculture, ça c'est vrai, mais au niveau industriel, on est à 8% de droits de douane en moyenne, ce qui est bien en dessous, par exemple, de ce que peut faire l'Allemagne ou les États-Unis. On protège très peu, voire pas du tout, les intrants industriels, les produits semi-finis ou les matières premières nécessaires à l'industrie. Et aussi, on négocie des traités de protectionnisme ou des traités de commerce à tarif qui, finalement, sécurisent aussi les exportateurs. Donc, tout le monde se retrouve un peu satisfait de cette politique commerciale, mais ça fait pas bouger les choses. Ça, c'est peut-être la critique qu'on peut formuler.
Une culture du compromis, donc, qui se contente peut-être de valider l'ordre établi d'une certaine manière. Merci infiniment, Léo Charles, d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'Université de Rennes 2 et que vous êtes l'auteur d'une thèse intitulée « Protection, spécialisation et croissance économique pendant la première mondialisation en France et en Suisse, 1850-1913 ». Et vous restez avec nous, Léo Charles, car il est l'heure de retrouver l'économiste Alexandra Roulet qui tire comme tous les lundis le fil de l'écho. Et aujourd'hui, Alexandra, vous nous parlez de la valeur de nos compétences, mais aussi de celles que nous n'avons pas ou que nous n'avons plus.
Le fil écho. Si l'on souhaite préserver notre modèle social sur le long terme, un facteur clé est bien sûr la capacité de l'économie française à générer suffisamment de recettes. Or, l'ingrédient décisif pour générer des richesses et donc des recettes, ce sont nos compétences. Nos savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter correctement, nos savoir-faire techniques, mais aussi nos savoir-être professionnels qui permettent de bien faire face à tout type de situation. Malheureusement, dans les comparaisons internationales, notre niveau dans beaucoup de ces domaines est en chute libre depuis de trop nombreuses années. Mais heureusement, il y a des pistes pour inverser la tendance. D'abord, il faut comprendre pourquoi les compétences sont importantes. Augmenter nos compétences, c'est une façon à la fois d'augmenter notre quantité de travail, parce que les plus diplômés sont moins souvent au chômage ou inactifs, et notre productivité. Cela permet donc de produire plus et de générer plus de richesses et de recettes. Or, depuis de nombreuses années, plusieurs organisations internationales, comme par exemple l'OCDE, essayent de mesurer les compétences dans différents pays. Et le résultat, c'est que la France dégringole dans les classements. En maths, c'est assez net depuis déjà un certain temps. Au départ, on se consolait en se disant qu'au moins on avait encore des élèves excellents en mathématiques que le monde entier nous enviait. Et donc on se disait que la baisse du niveau affectait la moyenne, mais pas la tête de classe. Eh bien, ce n'est plus vrai. Même le niveau des meilleurs baisse dans les comparaisons internationales. Mais il n'y a pas qu'en maths que la situation est préoccupante. Nous sommes aussi en queue de classement dans les compétences socio-comportementales, qui regroupent la capacité à travailler en équipe, à résoudre des problèmes, à gérer des situations stressantes, etc. Heureusement, il existe des pistes d'amélioration. Par exemple, nous avons encore des méthodes pédagogiques à l'école très verticales, fondées sur l'autorité du professeur, plutôt que sur la collaboration entre élèves. Or, des études montrent que des méthodes plus horizontales peuvent faciliter le développement de la confiance en soi, la capacité à travailler en équipe, etc. Ensuite, pour les mathématiques, des initiatives ont été prises récemment pour essayer de progresser. Par exemple, avec l'adoption en primaire de la méthode de Singapour, qui introduit les fractions dès le CE1 au lieu du CM1. Mais pour développer notre niveau dans les matières scientifiques, il faut aussi s'assurer que les élèves ne s'auto-censurent pas. Beaucoup de filles ou de jeunes de milieux défavorisés ne se projettent pas dans les filières scientifiques, pourtant rémunératrices, et c'est un problème, pas que pour des questions d'équité, mais aussi pour des questions d'efficacité économique. On a besoin de tous les talents pour rendre notre économie plus forte et garantir la soutenabilité de notre modèle social. De ce point de vue, des interventions de grands scientifiques issus des minorités dans les classes de lycée s'avèrent une façon très puissante et peu onéreuse de créer des vocations. Enfin, il reste un levier important. C'est celui de l'attractivité du métier d'enseignant. La place des enseignants dans l'échelle des salaires s'est beaucoup détériorée au cours des dernières décennies. Certes, les profs ont été revalorisés à la rentrée 2023, mais il demeure des écarts importants de rémunération avec d'autres pays. Alors, espérons que le sujet des compétences soit au cœur de l'agenda politique des prochaines années et que toutes les pistes soient mises en œuvre pour redorer notre blason.
Merci Alexandra, le fil de l'écho est à retrouver sur l'application Radio France. Un grand merci également à Tina Young qui a préparé cette émission et à Sorge Leroy qui l'a réalisée et mise en onde.